c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Simon. Nous avons une visite, Madame Séverine Blandin, enseignante à MFR, c'est ça?
Oui.
Et donc, ça correspond à Maison Familiale Rurale, à Salignac-et-Vigue. Et elle va nous présenter un projet avec ses élèves qui viendront le 30 novembre une première fois, n'est-ce pas, Séverine?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Eduardo. Donc, j'ai l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui car, effectivement, à partir du 30 novembre, nous allons vivre une belle aventure avec nos élèves de 4e, puisqu'ils vont venir produire 5 émissions au total. Hein.
Sur l'Amérique latine.
Sur l'Amérique latine. Alors, ils vont vous parler de l'Amérique latine puisque cette année, nous faisons le tour du monde en 80 jours avec nos jeunes. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans une dynamique pluridisciplinaire. Hein. Ils vont étudier évidemment l'œuvre de Jules Verne en français, les écosystèmes en biologie. Ils vont pratiquer les sports de tous les continents en EPS, etc., etc. Et puis évidemment la culture aussi, en éducation socioculturelle. Nous commençons par l'Amérique latine parce que c'est un choix personnel puisque je suis fascinée par ce continent. J'ai moi-même eu la chance, toute jeune, d'aller dans le Chaco Pantanal au Paraguay à l'âge de 18 ans et de vivre au Costa Rica à l'âge de 20 ans avec les Cabécars. Donc je souhaitais partager cette merveilleuse expérience avec nos jeunes qui sont très enthousiastes et très motivés.
Très bien, donc nous allons parler en espagnol.
Si, claro.
Bien, merci beaucoup Séverine, merci. N'hésitez pas à nous poser des questions éventuellement parce que maintenant nous allons présenter les sommets que nous avons préparés, comme je vous l'ai dit hors antenne. Nous allons parler de Cuba, nous allons parler d'Argentine et nous allons parler du Brésil, si le temps nous permet, et éventuellement de Patagonie. Voilà, donc je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de l'exode à Cuba.
Oui, l'exode des Cubains atteint des sommets depuis 2 années. Le chiffre de 700 000 départs est évoqué par les États-Unis. Ces hommes et ces femmes fuient un pays ruiné. Aux portes des édifices de la petite banlieue havanaise, Camilo Cienfuegos, là où la mer se jette sur les rochers, des hommes préparent un radeau fait de bois, de pneus et de bidons d'essence, ce type d'embarcation pour ceux qui veulent faire la traversée vers les États-Unis. Les flots se nourrissent des départs clandestins de ces esquives précaires la nuit venue. Ils sont toutefois plus rares à se lancer aujourd'hui en radeau. Les naufrages, les courants et les requins n'arrêtent pas les habitants de l'île, mais l'immense majorité préfère acheter un billet d'avion pour le Nicaragua, qui a levé les visas pour les Cubains à la fin 2021 pour ensuite gagner la frontière nord-américaine. Cuba compte 11 millions d'habitants. Près de 2 millions de Cubains vivent aux États-Unis et 200 000 en Espagne depuis des années. Il n'était que 52 000 en 2002, Cubains en Espagne. Au 30 septembre dernier, 425 000 Cubains ont été officiellement interceptés depuis 2 ans à la frontière sud des États-Unis. Il faut y ajouter ceux qui n'ont pas été pris, ceux qui sont morts en mer ou en tentant de traverser les frontières des pays d'Amérique centrale. Les routes de l'exil vers l'Union européenne passent par la Serbie ou la Russie, qui ne demandent pas de visa aux Cubains. Si l'Espagne est une des destinations préférées sur le vieux continent, l'Italie l'est aussi. La faim et l'absence de perspectives sont les principales causes de départ. Le rêve d'ailleurs est décuplé par parce que tout le monde s'en va, pour reprendre le titre du livre de la cubaine Wendy Guerra.
Oui, maintenant, il y a un motif précis pour la situation que vivent les Cubains au sujet de cet exode, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu un embargo.
Fin du blocus réclamé pour Cuba. Pour la 31e année consécutive, la quasi-unanimité des pays membres des Nations Unies a demandé la levée des sanctions imposées à Cuba depuis 1962 par Washington. Le monde soutient Cuba. Isolée économiquement, la plus grande île des Antilles est loin de l'être sur le plan diplomatique et le prouve une fois encore au sein du principal organe délibérateur et surtout le plus représentatif et démocratique des Nations Unies. Son Assemblée générale, en effet, le 2 novembre dernier, cet organe central du système onusien a massivement exigé la fin du blocus états-unien imposé à La Havane. 187 pays sur 193 ont ainsi approuvé le projet présenté par le ministre cubain des Affaires étrangères, intitulé « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis ». Seule opposition, celle, bien entendu, des États-Unis et d'Israël. Un blocus décidé par le président John Kennedy en 1962, visant à faire renoncer Cuba à son indépendance et à sa souveraineté, niant au passage à son peuple le droit d'exercer sa libre détermination. Renvoyant au rapport annuel présenté par la diplomatie cubaine, plusieurs États ont souligné les dommages financiers provoqués par le blocus, soit 4 487 milliards de dollars sur la période de mars 2022 à mars 2023, l'équivalent de 3 ans de rations alimentaires pour toute la population cubaine, a noté la Chine. S'exprimant à leur compte, plusieurs pays ont eu des mots forts pour dénoncer une situation aberrante et injustifiable. Le Mexique. Illégal, injuste et immoral, l'Argentine, qui exacerbe la souffrance de tout un peuple, l'Algérie, punition collective dont les effets représentent un crime contre l'humanité, le Venezuela. 157 pays ont participé à l'élaboration d'un rapport sur le blocus, incompatible avec un système international fondé sur l'état de droit.
Sabor, me lo dice.
Yo cantaba.
party.
Musique de Cuba qui donne envie de danser, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, oui, oui.
Et Séverine voulait danser aussi.
Ça.
Alors, nous allons parler maintenant de l'Argentine, l'élection de dimanche prochain, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, le 19 novembre prochain, oui. Sergio Massa et Javier Milei s'opposent rudement à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats ont débattu en direct à la télévision le 12 novembre dernier. Un débat d'autant plus important que l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, de centre-gauche, et le candidat ultralibéral et antisystème Javier Milei sont au coude à coude dans les sondages. Les Argentins ont vu deux candidats et deux visions diamétralement opposées de la place de l'État dans la société. Pour Milei, l'État est la source du problème, pas la solution. Face aux velléités de privatisation de Milei, Sergio Massa se fait le défenseur des services publics, de la santé et de l'éducation gratuite et réussit de demander à Milei des comptes sans que son propre bilan peu flatteur à la tête du ministère de l'économie ne soit pas questionné. À la place, il tâche de se montrer comme un homme tourné vers le futur et rassembleur. Rappel, Milei est arrivé deuxième au premier tour avec 29% des voix, précédé par Massa avec 36%. Les sondages depuis le premier tour prédisent un scrutin serré le 19 novembre prochain. Léger avantage à Milei pour certains, à Massa pour d'autres, mais un écart très faible, entre 1,5% et 4%, qui l'interdit pour l'heure un pronostic. Reste à savoir comment gouvernera le prochain président. Les élections législatives partielles du 22 octobre ont marqué une percée des ultralibéraux qui devraient obtenir une quarantaine de sièges de députés. Mais aucune force n'a obtenu de majorité, ce qui obligera le futur chef de l'État, quel qu'il soit, à tisser des alliances.
Oui, d'après tous ces articles parus dans la presse, je pense que Milei c'est un danger ultralibéral d'extrême droite pour l'Argentine, un grand pays, ça serait bien dommage. Mais nous allons passer à un autre sujet peut-être plus sympathique, au sujet du Brésil, n'est-ce pas? On va parler du Pantanal.
Du Pantanal, oui. Pour attirer les touristes, cette région brésilienne mise sur son patrimoine culturel et sa riche faune. Cette zone humide, l'une des plus grandes plaines inondées du monde, renferme une immense biodiversité. La population du Pantanal et le tourisme dans la région ont beaucoup souffert des incendies survenus en 2020. Les autorités touristiques du Mato Grosso œuvrent donc pour faire revenir les visiteurs en proposant des circuits tournés vers la culture locale avec spectacles musicaux ou immersion dans le quotidien Pantaneiro. Les esprits aventureux partiront admirer le coucher du soleil en kayak sur les eaux de la rivière Paraguay à 220 km de Cuiba. Le cours d'eau trouve sa source au Mato Grosso avant d'aller couler en Bolivie, au Paraguay et en Argentine. La formidable biodiversité du Pantanal attire les ornithologues amateurs et les photographes du monde entier. Les passionnés de nature apprécieront les safaris et les croisières, des occasions uniques de s'immerger dans l'environnement et d'avoir la chance peut-être de croiser un jaguar. C'est à la saison sèche de juillet à octobre que les chances de rencontrer le félin sont les plus grandes. La faune converge le long des rivières et des points d'eau. Les jaguars s'y rendent aussi pour chasser, notamment les caïmans et les capybaras. Alors le capybara, c'est un petit rongeur qui est en Amérique latine, mais en Amérique du Sud.
Oui, tout à fait. Alors,
diverses actions de protection de la nature sont menées dans la région, de la sensibilisation en direction des habitants et des agriculteurs au projet de réintroduction.
Voilà, merci Béatrix. Donc ça, c'est un tour sympathique. Jusqu'à octobre, c'est déjà passé, donc vous pouvez envisager un voyage entre avril et octobre.
L'année prochaine.
Au Brésil, au Pantanal. Voilà, nous allons écouter de la musique. De la musique brésilienne, mais au sujet des paysages de ce continent latino-américain, Séverine a 30 secondes pour nous parler de ce qu'elle a vu de là-bas, n'est-ce pas?
Oui, oui, tout à fait, parce que ce que j'expliquais, c'est que lorsque je suis allée au Paraguay, je suis allée au Chaco Pantanal, donc en pleine jungle, et c'était à la frontière, enfin c'est le Pantanal, hein, c'est à la frontière du Brésil, et c'est là-bas que j'ai découvert... les coatis, les fourmiliers, les capybaras, là, qui sont les plus grands rongeurs que l'on trouve, et notamment les caïmans, hein, que j'ai eu le bonheur de chasser en barque avec les locaux de là-bas. Donc vraiment très dépaysant, hein, ces becs ciseaux sur le lac, ces colibris partout, les toucans, c'est vraiment magnifique. Les jabirous qui sont des oiseaux aussi grands que nous, hein, voilà, donc avec une diversité de faune et de flore vraiment incroyable. Donc effectivement, c'est le paradis, enfin le paradis pour les amoureux de nature.
Merci Séverine pour ce témoignage très bref en fait, mais nous aurons le temps de parler une autre fois, peut-être le 30 prochain, jeudi 30 novembre prochain. Et nous allons parler d'un autre paysage très varié, n'est-ce pas Béatrice, au sujet de la Patagonie.
Oui, comment peut-on être Patagon ? Se demande-t-on devant cet espace vertigineux, tourmenté par les vents et les neiges. Mais comment ne pas en tomber amoureux après avoir louvoyé entre épaves et récifs dans le détroit de Magellan, marché sur les traces des dinosaures ou devant les fresques rupestres de Santa Cruz ? Depuis 3 siècles, cette géographie à grand spectacle attire les expéditions scientifiques les plus audacieuses, dont celles de d'Orbigny, de Darwin et de Moreno. Terre de tous les fantasmes et de toutes les utopies, hantée de légendes extravagantes, l'idée patagonienne est d'abord une tempête d'imaginaire. Envahie en son temps par les conquistadors assoiffés d'or, parcourue par les mystiques à la poursuite du paradis perdu, elle est devenue la terre promise des aventuriers de l'écologie, de l'extrême et du dépassement de soi. Alors voici quelques citations. Prospérité, pacification, développement économique et élévation des âmes. Les nobles idéaux ne manquaient ni aux militaires qui réduisent les tribus indiennes, ni aux missionnaires qui les évangélisèrent. En toile de fond, une volonté délibérée de réduction de l'indianité. Donc c'est écrit par Jean Canesi, qui est polygraphe. Ensuite, il y a la Patagonie fut dans les années 20 le théâtre du soulèvement d'inspiration anarchiste des prolétaires de la laine contre les grands propriétaires terriens. Le nombre des insurgés et l'immensité de la zone où cette révolte se propagea en font un événement unique en Amérique du Sud. En dépit des efforts déployés pour la jeter aux oubliettes, cette épopée continue d'habiter les esprits. Et c'était écrit par Osvaldo Bayer, écrivain et historien argentin. Ensuite, la Patagonie. Il n'est que la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse. La Patagonie est un voyage dans les mers du Sud, a écrit Blaise Sandrard.
Oui, merci Béatrix. Et nous vous suggérons d'aller voir quand va sortir bientôt sortie nationale le 20 décembre 2023 au sujet de la Patagonie, un film qui s'appelle Les Colons. C'est un film qui montre comment certains colons ont agi d'une façon sauvage, oui, pour exterminer les Indiens. Donc, les colons, ne l'oubliez pas. Mais n'oubliez pas non plus que vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons, au sujet du tourisme, nous allons garder dans nos archives de Topéal un reportage envoyé par Radio Nacional d'Espagne sur l'écotourisme.
Latinoamérica, santuario para el ecoturismo. La biodiversidad de la región latinoamericana cumple todos los requisitos para desarrollar el ecoturismo. Un ejemplo fehaciente lo encontramos en Costa Rica, una de las naciones del mundo que mejor conserva sus riquezas naturales.
Costa Rica en ese sentido es un país que evidentemente ha desarrollado un concepto del desarrollo sostenible y consiguientemente del ecoturismo con un cuidado de naturaleza muy significativo.
Quien así opina es el representante regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, el argentino Carlos Ernesto Gutiérrez.
Costa Rica es un país que tiene una imagen a nivel internacional como un país ecoturístico por antonomasia, y es una de las principales motivaciones por las cuales los turistas se dirigen a ese país.
En el caso de Hispanoamérica, también llaman la atención de los ecoturistas otros países. Carlos Ernesto Gutiérrez.
En el caso de la región americana y en el caso de los países que usted cita, hay un reconocimiento, caso de Cuba y caso de México, hay un reconocimiento creciente a la importancia del turismo como actividad económica, como actividad social, como actividad cultural, como utilización del tiempo. Y eso se verifica no solamente en cuantitativamente en las llegadas de turistas, sino también en la ubicación o en el posicionamiento que tienen en la estructura del Estado las organizaciones turísticas. La Administración Nacional de Turismo, tanto en el caso de Cuba, que es ministerio, como en el caso de México, que es Secretaría de Turismo, que es el equivalente a un ministerio, tienen el máximo nivel en la estructura del Estado en esos países como un reconocimiento.
Los latinoamericanos tienen distintas concepciones del turismo.
El turismo, además de ser una actividad, como lo dije, desde el punto de vista económico, es una actividad de vinculación de los pueblos, es un elemento de paz y es un elemento de integración y de mutuo conocimiento a través de un vehículo que evidentemente pone en contacto a las poblaciones teniendo el debido respeto por las identidades locales.
En los estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo, OMT, aparecen entre los principales mercados muchas zonas latinoamericanas. Carlos Ernesto Gutiérrez.
Aparece a veces Galápagos diferenciado del Ecuador como destino. Es decir, la gente conoce a Galápagos como una imagen de marca, de la misma manera que aparece la Patagonia y de la misma manera que aparece la Antártida. diferenciado y la Patagonia indiferenciada, o sea, la Patagonia chilena y la Patagonia argentina, sino la Patagonia como imagen de marca. Esto quiere decir que desde el punto de vista ecoturístico, digo esto al pasar, hablando del tema, que hay destinos que tienen una imagen propia, independientemente del país al cual pertenecen territorialmente, como es el caso de Galápagos.
Una de las instituciones que más contribuye al fomento del turismo en América Latina es la Agencia Española de Cooperación. Prueba de ello ha sido el convenio suscrito con Perú.
El Perú es un país que tiene una fuerte identidad y ha tenido en el pasado y está recuperando flujos turísticos en forma notoria, y es uno de los pocos países de América que ha tenido un comportamiento positivo desde el punto de vista de las llegadas en el primer semestre del año en curso. Los firmantes, por el lado peruano, es justamente el responsable del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República Peruana.
La Organización Mundial del Turismo cuenta con una red de centros de formación. Carlos Ernesto Gutiérrez, representante regional para las Américas.
En primer lugar, el proceso del desarrollo turístico se ha generalizado en todo el mundo. En ese proceso, con sus avatares de calidades en buenas y malas, evidentemente ha habido un desarrollo muy importante a nivel internacional y los centros cubren, si no toda la geografía mundial, por lo menos una parte importante, en reconocimiento en cada caso específico de sus valores individuales, ¿no? Y sus valores en cuanto a centros de excelencia y de formación turística. Así que esta red, y bueno, en el caso americano hay, pero quisiéramos, yo como representante regional, que hubiera más centros formando parte de la red con el sistema de incorporación y certificación de calidad.
Las facilidades que ofrece la zona americana para hacer ecoturismo. Ha opinado Carlos Ernesto Gutiérrez, representante regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo.
Panorama.
Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Beatrix qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine, évidemment. Merci à Séverin qui nous a rendu visite pour présenter bientôt avec vos élèves, parler de ce continent. Et merci à Simon à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.